Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Ha, 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 ha ! Bonjour !
C'est dans la revue numéro 13 que nous avons pioché la première nouvelle. Son titre, le zoo de Vincennes, répondait à notre demande d'écrire sur le thème des traces. Et son auteur est notre ami Gérard Streff. Un auteur tellement prolifique que j'y passerai toute la durée de l'émission si je voulais vous énumérer les plus de 100 livres qu'il a écrits. Que ce soit dans le domaine du polar, du roman, du livre jeunesse, des essais historiques, des biographies.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Ce sont les voix de Patricia, de John, de Laurent
et d'Evelyne
qui vous accompagneront dans cette émission.
J'aime pas le lundi,
dit le commandant Bourjade, Chloé Bourjade, une grande bringue trentenaire aux cheveux roux, taillée en brosse très courte, blouson de cuir, jeans moulants. Alors elle bâilla, grimaça et tira les bras comme une crucifiée.
Oh, je ne sais pas si t'as remarqué, mais le lundi, on hérite toujours d'un paquet de suicides. T'es pas d'accord ?
En gros, c'est vrai,
opina le capitaine Bastille. Comme la Bastille, René Bastille, un trapu. Une bonne tête de moins que sa supérieure.
En gros ?
Ben, ce matin, désolé de te contredire, mais c'est pas tout à fait le cas.
C'est-à-dire ?
Il désigna un cahier à l'entrée de la morgue. Une sorte de main courante.
21 meurtres et deux dedans.
Dedans ?
Oui. Deux de ces meurtres sont en fait des suicides.
Je comprends pas toujours ce que tu dis, tu sais. Bon, deux suicides, tu dis. Comment tu le sais ?
Bah, c'est le légiste.
Ah, autant pour moi. Alors on prend quoi comme affaire aujourd'hui ? Le premier de la liste ?
C'est tout. Et les autres ?
Ah, premier venu, premier servi, mon vieux. Et puis, il faut laisser du boulot pour les copains, non ?
Pour les copains, dit-elle, en regardant les différentes équipes de l'Est parisien qui arrivaient peu à peu. Bourjade repensait à la discussion avec Gaillard, le légiste. Le macabé qu'ils avaient pris en charge, on ignorait encore son identité, avait reçu une balle dans l'oreille. Il portait sur le dos un tatouage tout à fait impressionnant. Un tatouage représentant un paysage de montagne, une falaise très droite, un vrai piton rocheux dressé entre deux massifs de moindre importance.
Un point commun,
dit Gaillard, le légiste, en tapotant de sa main sur le tableau tatoué sur la peau.
C'est-à-dire ?
C'est le deuxième Gus en une semaine qui débarque sur ma table avec exactement le même dessin, au même endroit.
Meurtre ? Suicide ?
Homicide, les deux. L'autre, c'était une balle dans l'œil.
Permettez ?
Elle avait pris une série de photos du dos orné. Le légiste avait conservé l'identité de l'autre tatoué, un certain Bernard Lamour, domicilié quai de la gare dans le 13e arrondissement. C'était juste à deux pas de l'autre côté de la Seine. La veuve habitait là, assura Gaillard, alors ils décidèrent de lui rendre visite. Le temps s'était brusquement dégradé. De gros nuages noirs cachèrent le soleil, une pluie grasse se mit à dégouliner sans transition, au point qu'ils repérèrent à peine le quai en question. En face de l'immeuble des Lamour, un feu rouge et son reflet sur le trottoir mouillé formaient deux points distincts et parallèles. Sa veuve les accueillit sans entrain.
J'ai déjà tout dit.
Juste une question annexe. Votre mari, il portait un tatouage ?
Une gaminerie, oui. Ça lui avait coûté bonbon à ce con.
Ça ressemblait à ça ?
Elle reconnut sur la photo le dessin. Pensa que c'était celui de son époux. Bourjade lui parla d'un nouveau corps, décoré exactement de la même manière.
Berlin ? Ah, c'est Berlin, ça peut être que Berlin. Charles, un pote de mon Jules. Des inséparables. Tout le temps à faire la même chose, comme ce tatouage. Il est mort, Berlin ? Lui aussi ?
Le commandant ne répondit pas et lui demanda ce que représentait ce décor.
Quoi ? Vous avez pas reconnu ? Oh, il aurait été méchamment vexé, l'amour, hein, si vous avez entendu. Il pensait que c'était ultra réaliste.
Bon, alors c'est quoi ce tatouage ?
Bah, le zoo !
Le zoo ? Quel zoo ?
Bah, le zoo de Vincennes. Ma parole, mais vous débarquez ou quoi ? Me dites pas que vous avez jamais été au zoo de Vincennes.
Vincennes ? Bon Dieu ! C'est bien sûr, Vincennes, ses rochers, ses fosses, ses singes, et tout le toutim. Les types de la morgue se trimbalaient avec la reproduction du grand rocher.
Le commandant se rendit compte qu'elle n'avait plus mis les pieds dans cette institution depuis une éternité. Elle devait être toute petite la dernière fois qu'elle y déambula, main dans la main, avec son père. Séquence nostalgie, ça lui revenait. Oui, ça lui revenait maintenant en avalanche.
Vincennes, 15 hectares de jungle, 1000 animaux, 200 espèces. On pouvait les voir sans barreaux, dans les fossés. En quelques allées, on passait de l'Europe à l'Afrique, de l'Océanie à l'Asie. Ah, oh, un grand voyage! Pour un tout petit ticket.
Hé, hey, commandant !
Bastille avait dû tirer sur la manche de Bourjade pour la faire atterrir.
Excusez-moi, j'étais retombée en enfance. Faudrait que j'y retourne, tiens.
Vous aurez du mal, c'est fermé.
Fermé ? Le zoo ?
Bah, décidément, hein. Faut tout vous dire. Mais ma parole, vous vivez où, vous ? Le zoo ? Est fermé depuis 3 ans. Au moins, hein, paraît qu'ils veulent tout refaire et tout raser. Les rochers...
Et les animaux ?
Ils ont pris le maquis. Non, je rigole. On les a éparpillés dans les eaux des environs. Sauf les girafes et les lémuriens. Vous savez, ces petites bêtes avec un museau pointu et de gros yeux. Paraît qu'ils supportent pas les séparations.
Bon, et votre mari dans tout ça ? Il travaillait au zoo ?
Pas du tout. Déjà, il travaillait pas, en règle générale. Un autre point commun avec Berlin. Des glandeurs de première. Mais des fanas des bêtes et du zoo. D'où le tatouage.
Et vous pensez, excusez-moi d'être direct, hein, qu'il pourrait y avoir un rapport avec sa mort ? Je veux dire, un rapport entre le zoo et sa mort ?
Vraiment, je vois pas. Sauf peut-être qu'à son dernier anniversaire, il y a 10 jours, ici même, avec Berlin d'ailleurs, mon homme et lui avaient bu comme des trous et passé la soirée à parler du zoo. Le coin leur manquait, comme des vrais gosses. Ils avaient très envie d'y retourner. Je crois bien qu'ils en ont fait alors le pari.
Le pari de quoi ?
Bah, d'y retourner au zoo.
Ils l'ont fait ?
J'en sais rien. M'a rien dit les jours suivants, mais c'est vrai qu'il a eu l'air tout bizarre après. Et c'était pas les vapeurs de l'alcool, croyez-moi. Il tenait le coup, le bonhomme.
Le lendemain aux aurores, Bourjade et Bastille s'invitaient au zoo. Les portes étaient fermées, les guichets déserts, mais ils avaient veillé à prévenir l'administration et un employé, Gérard Dubien. Département logistique, Muséum national d'histoire naturelle, et celui-ci les attendait. Ils traversèrent les allées vides, longèrent les fosses désertes et exigèrent de visiter le grand rocher, celui qui surplombe tout le zoo du haut de ses 65 mètres. Dubien s'étonna, les policiers le laissèrent s'étonner. Le commandant demanda si le zoo recevait des visites sauvages ou nocturnes ou même indésirables. L'autre hésita, puis reconnut que ce parc en plein Paris était traversé en fait en permanence par des rôdeurs et des aventuriers en herbe, parfois des squatteurs ou même des amoureux.
D'ailleurs, vous devriez le savoir, avec tout le respect que je vous dois, car vous avez ici un indicateur.
Et Bourjat se retourna vers Bastille qui fit la moue.
Première nouvelle.
Mais que fait?
Mais que fait?
Un SDF tendance Rasta qui traîne ici depuis toujours. Il est connu comme le loup blanc. Pardon pour cette image audacieuse. Et comme ses attaches avec la préfecture sont notoires, tout le monde l'appelle... Mais que fait la police? Pardon.
Trouvez-moi ce bonhomme.
Le grand rocher méritait bien son nom. Il s'agissait en fait d'une construction artificielle, une structure vide, simplement habillée d'une peau de béton projetée. Allez, l'illusion était parfaite, tout le monde s'y était trompé, les animaux comme les visiteurs.
Paraît qu'on va le raser ?
Rien n'est encore décidé.
Au pied du rocher monumental, il y avait une porte de belle taille, avertissant que l'entrée était strictement interdite. Une tête de mort entre deux os croisés regardait tout intrus avec une espèce de sidération. Gérard Dubien tenta en vain les diverses combinaisons du cadenas, mais pas moyen d'entrer. Alors l'employé s'agaçait, insistait, et alors que l'homme de la logistique était en train de s'agiter sur la porte, Bastille désigna à Bourjade une ombre qui escaladait des rochers proches. Aussitôt, les policiers prirent en charge le fantôme. Ses massifs voisins n'étant pas trop pentus, ils eurent vite fait d'arrêter leur espion.
« Mais que fait mon commandant ?»«
Police !»
déclara théâtral le commandant. Et pendant ce temps, Dubien était finalement venu à bout du cadenas. Le vaste hall d'entrée du grand rocher ressemblait à une plateforme d'un port ou d'un aérogare de fret. À perte de vue étaient alignés des containers qui attendaient le client.
Alors, c'est quoi ça, mais que fait ?
L'autre garda le silence. Juste le temps qu'il fallait à ses yeux pour ne pas avoir l'air d'une fiotte, puis il se déboutonna. Oui, il raconta que le zoo désert en plein Paris abritait en fait tous les trafics. Ah, l'amour et son ami s'étaient sûrement bien amusés à visiter les lieux. Ils voulaient absolument revoir le grand rocher et ils étaient tombés sur une réunion de grossistes de drogue, un jour de marché. Et ils avaient vu ce qu'ils devaient pas voir. Alors... on les avait fait taire.
Et toi? Mais que fait? On t'a rien fait? Toi, tu cours toujours. Pourquoi?
Alors, Asta jouait sur tous les tableaux. Indique et dealer à la fois. Il se croyait le roi de la zone, mais cette fois, il n'avait plus le choix. Il devait dire tout ce qu'il savait. Tout ce qu'il savait. Et... enfin, ouais. Si tout était à recommencer... si tout était à recommencer, ruminait-il dans la voiture qui le conduisait au central. Ouais, si tout était à recommencer. Mais que voulait-il dire au juste ?
«
Vous venez d'entendre le morceau « L'escabeau » de Suzanne aux yeux noirs. Voici maintenant une nouvelle écrite par Jean-Marc Sivel. Il y a quelques mois, nous avions déjà lu « La fin des haricots » où Jean-Marc avait déjà mis en scène son héros Gilbert, que vous allez retrouver dans cette avant-dernière partie. Mince alors, il n'est pas là.
En ce mardi matin du mois de juillet 2006, Gérard, le facteur, fut étonné de ne pas trouver son vieil ami Gilbert assis sur son banc habituel entre deux potées de géranium odorant.
Ah, il doit être derrière, dans son jardin.
Puis, regardant sa montre, il ajouta
« Oh là là, je suis à la bourre, moi !» Oh, hey, tant pis pour mon canon. Dommage. J'en aurais bien eu besoin pour attaquer la côte du Crève-Cœur.
Enfourchant son vélo bleu et jaune tout neuf, le préposé de la poste reprit sa tournée en zigzagant. L'esprit déjà embrumé par quelques cafés calva matinaux. Assis, en tailleur dans l'herbe, au milieu de ces massifs de dahlia, Gilbert avait le cœur gros en se remémorant le superbe potager des années précédentes. Il aimait bien sûr ses fleurs, mais c'était plus pareil depuis que le docteur lui avait annoncé sa funeste maladie. L'abandon de ses cultures potagères le privait de la satisfaction de subvenir à ses besoins alimentaires. Et il n'était pas parvenu à cultiver à nouveau des légumes qui avaient insidieusement empoisonné son corps en avril 86.
Dire que ce putain de nuage devait s'arrêter à la frontière.
L'esprit partagé entre colère et tristesse, Gilbert passa encore un long moment allongé dans l'herbe, à regarder passer d'inoffensifs cumulus dans le ciel d'été. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il rentra dans sa cuisine pour éplucher quelques patates, malgré un manque d'appétit, dû au lourd traitement médicamenteux qu'il subissait depuis quelque temps. Machinalement, il jeta un œil sur le calendrier que lui avait offert son ami Gérard, et se rappela brutalement la petite phrase qu'il avait lui-même écrite à côté du mardi 17 juillet, date d'aujourd'hui. Rendez-vous avec la M pour la dernière partie.
Bon sang, il faut que je me prépare.
Abandonnant son économe sur le rebord de l'évier en grès, il se précipita dans sa chambre pour dénicher son unique costume en velours côtelé, dans l'imposante armoire lorraine que lui avait léguée son grand-père. L'odeur insoutenable de la naphtaline provoqua en lui un haut-le-cœur fort désagréable, lui coupant l'appétit une bonne fois pour toutes. « 23h30, rendez-vous avec la M. » La flamme vacillante de la chandelle a bien du mal à éclairer les cartes qui s'abattent régulièrement sur la table. La partie est sérieuse, tendue. Le balancier de la pendule égrène de longues secondes, ajoutant une ambiance pesante à la soirée déjà sinistre. Les deux protagonistes affichent une mine très concentrée. De son côté, Gilbert, malgré une fausse assurance, est inquiet. engoncé dans son costume amidonné, c'est la première fois qu'il sent son avantage fondre comme le glaçon qui flotte dans la suze qu'il tient dans sa main. Face à lui se tient la grande faucheuse, bien à l'aise, sa capuche en arrière, laissant apparaître un crâne vert jaune. Ses mâchoires, noircies par le temps, semblent esquisser un sourire inquiétant. En une dizaine de minutes, le couperet tombe lorsque la mort abat ses dernières cartes. Lentement, en les faisant claquer une par une sur la table. Carré d'as. Gilbert transpire, avale difficilement et finit par articuler d'une voix étranglée.
On fait comme on a dit ?
Bah oui, tu sais bien que ça barde là-haut, quand je ne ramène rien. J'ai eu un blâme la dernière fois. Faut pas que je rentre bredouille.
Bon, dis-moi, je peux te demander une dernière faveur, avant qu'on y aille ? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu peux pas me la refuser.
Bon, dis toujours.
Tu me laisses encore une heure. J'ai envie d'aller faire un tour dans la nuit, histoire de me repasser le film de ma vie.
Ça marche. Mais pas plus d'une heure, le patron m'attend.
Oula ! Pas beau à voir.
Soupira Gilbert en détournant la tête.
Enfin, t'auras pas à souffert, mon pote. T'empestes encore le calva à 5 mètres à la ronde.
La bicyclette bleue et jaune du facteur était fichée dans le talus. La roue avant tordue, ses rayons brillant sous l'éclairage blafard de la pleine lune. La sacoche de cuir éventrée avait vomi tout son courrier éparpillé autour de l'épave. Le corps gisait plus loin, à proximité d'un rocher aux arêtes coupantes et englué de sang. Face contre terre, Gérard avait manifestement passé l'arme à gauche. Il n'avait sûrement pas pu maîtriser sa vitesse dans la pente réputée dangereuse de la colline du Crève-Cœur. Et son état d'ébriété plus qu'avancé expliquait tout naturellement l'accident. Ce n'est qu'en retournant sur ses pas que l'idée s'imposa dans la tête de Gilbert. Claire, lumineuse, évidente. Il se mit aussitôt à courir comme un fou vers sa maison.
Et pour l'échange, on est d'accord, hein ? Mais pour mon concert, tu peux faire quelque chose ?
Ça dépend. Tu sais bien qu'on a des quotas maintenant. C'était quoi déjà ?
Thyroïde de Tchernobyl.
Bon, je vais voir ce qu'on peut faire.
Gilbert, devançant la faucheuse, alla décrocher la cape du porte-manteau et la lui remit, tout en lui expliquant le lieu de l'accident. Les amis se séparèrent sur le pas de la porte où était appuyée la faux.
Un de ces jours, Gilbert, je finirai bien par revenir.
Prends ton temps. J'ai décidé de me remettre à la culture des légumes. J'aime trop la ratatouille.
Dans cette nuit chaude de juillet, Gilbert passa encore un long moment sur son banc, au milieu de ses géraniums, à essayer d'imaginer la deuxième partie de sa vie, qu'il n'avait pas prévue. Puis il rentra boire un dernier canon à la mémoire de son ami Gérard. Thank you. J'ai refusé avait l'intention de publier cette année un recueil où alterneraient micro-nouvelles de 100 mots et images autour du thème « vice ou vertu ». Mais devant le peu de propositions reçues, ce projet a été abandonné. Nous allons tout de même vous proposer la lecture de 3 de ces textes avec l'accord de leurs auteurs. Laurent vous lira « Petit garçon » de Gérard Severin, Patricia « Le dévouement » d'Evelyne Kuhn et John « Dieu est un salaud » d'Olivier Thirion.
Petit garçon, Arnaud aimait déjà à observer les poissons du grand aquarium de Nancy. Étudiant, il était encore là, à chercher à communiquer avec des poissons qui n'ont pas d'oreilles et qui ne parlent pas. Il va découvrir un univers passionnant, tout en mouvement et en signal bien au-delà du soufflage des bulles. Il va comprendre les poissons. Et les poissons vont le comprendre. Et par l'usage du langage, du corps, tout aussi riche et explicite que les sons ou les odeurs. Aujourd'hui, Arnaud ne parle plus. Il est professeur et éducateur à l'Institut des Sourds de la Malgrange.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Anne n'avait pas attendu le résultat des élections pour préparer son départ. Lorsque le pouvoir interdit aux femmes de conduire, elle mit sur son dos le sac de survie prêt depuis des mois et gagna la forêt. Habituée au camping sauvage, elle était entraînée pour ce long voyage à pied. Le troisième jour, elle se glissa dans une grotte pour y dormir. Peu de temps après, une jeune femme entra paniquée dans l'abri. Des hommes s'approchaient. « Viens ici ou on t'enfume !» Anne échangea leurs blousons et sortit. Deux coups de feu. Puis les rires des hommes qui s'éloignaient.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Dieu est un salaud. Un jour, vexé qu'un petit chiot se fût soulagé d'un jet d'urine sur les pieds d'une représentation statutaire de lui-même, Dieu se montra pour le moins vaniteux et cruel. Il fit tomber sur la planète promise aux chiens un déluge de croquettes empoisonnées qui élimina l'ensemble des Canis lupus familiaris. Puis il bricola l'homme et fit du chien son esclave. Bon, jusqu'ici, tout est normal. On ne fait pas pipi sur les pieds de Dieu sans conséquence. Mais ce vicieux inventa le chocolat et en fit un poison pour les chiens. Ah, un dieu ne devrait pas faire ça.
RCN, quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Eh bien, nous espérons que vous avez eu plaisir à nous suivre lors de cette émission, que vous pourrez bien sûr réécouter et faire écouter grâce au podcast sur RCN de notre émission « Quelles sont les nouvelles ?» Alors, je vous dis, et on vous dit,
au revoir.
À tous et toutes.
Ha, 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 ha.